L'actualité des Alpes du Sud, ils étaient 141 proches à avoir fait le déplacement ce jeudi pour commémorer les victimes du drame de la Germanwings.
Le 24 mars 2015, un A320 s'est écrasé dans le massif des Trois Évêchés entre Prades, Haute-Blayonne et Le Vernet, ce qui a causé le décès de 149 personnes, des hommages qui se sont tenus à huis clos.
Pas moins de 5 incendies dans les Hautes-Alpes ce jeudi entre la fin de matinée et l'après-midi.
Une journée dont se souviendront les pompiers des Hautes-Alpes qui ont été mobilisés à Ancel, Saint-Julien en Champsaur, Aubessagne, La Motte en Champsaur et Saint-Laurent-du-Croix. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ces incendies successifs.
Deuxième journée de procès de l'affaire de la cimentoplastie discale.
Avant la fin des plaidoiries et les réquisitions du procureur aujourd'hui, les débats se sont clairement divisés en deux temps hier, avec une matinée où le docteur Gilles Neurot était à la barre tout du long et une après-midi dédié aux patients qui se sont constitués partie civile.
Et puis un mode de sport avec 5 rapaces sélectionnés dans la liste élargie pour le mondial.
Julian Juncker, Fabien Bourgeois, Axel Prissin, Fabien Colotti et Romain Gutiérrez espéreront faire partie du groupe France qui s'envolera pour la Finlande du 12 au 24 mai prochain pour ce championnat du monde d'hockey sur glace. La météo, Thierry.
Temps calme et sec aujourd'hui avec encore du soleil au programme de toute la journée, même s'il y aura quelques passages nuageux d'altitude qui risquent même d'être un petit peu nombreux et assez épais par moments, notamment sur les Hautes-Alpes. Les températures maxi pour nos deux départements, ça s'échauffe de 13 à 20 degrés. 141 proches avaient donc fait le déplacement ce jeudi pour commémorer les victimes du drame de la Germanwings.
Le 24 mars 2015, un A320 s'écrasait donc dans le massif des Trois Évêchés entre Prades, Haute-Blayonne et Le Vernet. Suite au suicide du copilote, 149 personnes perdaient la vie, principalement des ressortissants espagnols et allemands affrétés avec les moyens de la Lufthansa. Les familles ont pu se rendre au Vernet ce jeudi alors que durant deux ans, à cause de la crise de la Covid-19, les hommages s'étaient tenus à huis clos. Reportage d'Aurore Valoré.
Seul le son du glas de la petite église du Vernet vient rompre le calme du village. Le ciel est d'un bleu éclatant, le soleil brille, les cimes des montagnes sont enneigées. Une journée qui n'est pas sans rappeler celle de ce 24 mars 2015. C'est au cœur de ce paysage paisible que s'était joué un triste scénario. La 320 qui reliait Barcelone à Düsseldorf se crachait dans le massif des Trois Évêchés. Le copilote de 27 ans, Andreas Lubitz, avait projeté l'appareil contre la montagne, entraînant dans cet acte délibéré les 149 passagers et membres d'équipage. 7 ans après, une cérémonie d'hommage était rendue dans le petit cimetière de la commune. Des gerbes y ont été déposées vers 9h30 en présence d'élus, mais aussi de familles, de victimes. Un couple d'Espagnols a perdu leur fils dans cette tragédie. Depuis, il ne manque pas une cérémonie. Il raconte ce jeune homme de 37 ans à la carrière prometteuse qui devait se marier prochainement. Pour rendre hommage à cet enfant, ses parents viennent chaque année le 24 mars, mais aussi l'été ou à Noël. Bernard Bartolini, le maire honoraire de Prades-Haute-Blayonne, les connaît bien.
Après le deuil, il y a eu quelques temps après, mais je dirais même 2 ans après, on est rentré dans une phase de mémoire. Et maintenant, c'est un vrai devoir de mémoire. Mais moi, en tant qu'élu, en tant qu'ancien élu, Ça m'a profondément marqué, mais c'est un événement qui va me suivre tout le temps, quoi. C'est un événement exceptionnel dans le malheur. On est parfois un peu démunis devant la tristesse des gens, les familles surtout, qui reviennent, mais c'est difficile chaque fois.
Et ce jeudi, cette commémoration avait un goût d'autant plus particulier car le 21 février dernier, la justice française rendait au terme de 7 ans d'enquête un non-lieu. Personne ne pouvait prévoir et donc empêcher le suicide du copilote selon les magistrats. Une réponse parfois incomprise par certaines familles de victimes, explique François Balic, le maire du Vernet.
Ce qu'elle n'arrive pas à comprendre, c'est qu'elle pense qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de la recherche de la vérité. Alors ce qui est que je les ai entendus, j'en ai discuté avec elle. Ce qu'elles ont du mal à comprendre, c'est qu'une personne qui a eu 35 ou je sais pas 40 arrêts de travail ait pu avoir se voir confier la responsabilité du pilotage d'un avion dans lequel avait pris place 149 personnes, elles ont du mal à comprendre.
Après le cimetière du Vernet, l'hommage s'est poursuivi en toute intimité dans une grande tente dressée en face du massif des Trois Évêchés. Les noms des victimes y ont été égrenés. Puis à 10h41, heure à laquelle l'Airbus s'est crashé, une minute de silence a été observée.
Merci beaucoup Aurore, un reportage à retrouver sur alpe1.com.
Dans le reste de l'actualité, pas moins de 5 incendies dans les Hautes-Alpes ce jeudi entre la fin de matinée et l'après-midi.
80 pompiers ont été mobilisés depuis 10h47 à Ancel. 10 hectares ont été parcourus. À 11h48, l'alerte a été donnée pour un feu à Saint-Julien-en-Champsaurt. Désormais fixé, le feu aurait touché 3,5 hectares. Autre sinistre vers 14h30 à Aubessagne avec 150 mètres carrés qui sont partis en fumée. Les soldats du feu qui se sont ensuite rendus vers 14h50 à La Motte en Champsaurt pour un incendie de forêt d'également 3,5 hectares. Il n'est pas encore fixé en fin d'après-midi, précise le 10.05. Vers 16h30, les secours ont été appelés à Saint-Laurent-du-Cros pour un nouveau départ de feu. Notez que plusieurs équipes de la gendarmerie étaient sur place, tout comme l'ONF et la DDT. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ces incendies successifs.
Et puis Christophe, un autre feu, mais cette fois-ci, c'était dans un appartement à Manosque.
Ce jeudi, vers midi, une trentaine de pompiers se sont rendus sur place. 50 rue d'Aubette, un appartement de 60 mètres carrés au 4e étage et à la toiture de cet immeuble ont été détruits. 4 appartements ont aussi été impactés par ce sinistre, notamment à cause des fumées et de l'eau. 5 personnes ont été incommodées par les fumées. 4 familles ont été relogées.
Et puis Manosque, toujours, où le service des urgences est de nouveau fermé durant la nuit.
La direction du centre hospitalier intercommunal précise que ces fermetures auront lieu de 18h30 à 8h30 ce dimanche, le lundi 1er avril et le dimanche 3 avril. Malgré des efforts importants réalisés par chacun et chacune, nous percutons à la fois la pandémie, des postes d'urgentistes non pourvus sur Manosque, une activité hors Covid soutenue, écrit la direction dans un communiqué. Notez que pour les personnes se présentant aux urgences, un affichage sera mis en place à l'entrée de l'hôpital avec l'adresse et les distances pour se diriger vers les urgences de Digne-les-Bains, Sisteron, Pertuis et Aix-en-Provence. Le SMUR est cependant maintenu.
Et puis deuxième journée du procès de l'affaire de la cimentoplastie discale.
Et le public est toujours au rendez-vous de cette audience un peu particulière au tribunal correctionnel de Gap qui s'achèvera donc ce vendredi avec la fin des plaidoiries et le réquisitoire du procureur Florent Crouy. Ce jeudi, les débats se sont clairement divisés en deux temps avec une matinée où le docteur Gilles Neurot était à la barre tout du long et une après-midi dédiée aux patients qui se sont constitués partie civile. Cyril Cavamichard.
La salle thémise du tribunal de Gap aurait très bien pu être confondue avec une conférence universitaire face à ce qui ressemblait par moments à un cours magistral du docteur Gilles Neurot sur la cimentoplastie discale. À l'aide d'un modèle réduit de la zone opérée et même du fameux ciment injecté, le chirurgien gapensé a pu expliquer en longueur sa technique et ses bienfaits qu'il inscrit selon lui dans une stratégie thérapeutique. Des bienfaits qui n'ont pas été constatés par ces 4 anciens patients qui se sont présentés à la barre ce jeudi après-midi. Entre une victime d'origine russe qui n'hésite pas à dire qu'elle a été torturée, une autre native du Portugal qui considère que sa vie s'est arrêtée lors de l'opération, et puis un élu local qui a eu l'opportunité de raconter son histoire. Maire de Trescléou depuis le début de semaine, membre du collectif des victimes de la cimentoplastie discale présidé par Bruno Chevalier, lui aussi présent à la barre, Jean Schuller souffre de douleurs dorsales persistantes lorsqu'il consulte le docteur Neurot au printemps 2015. Il se fait opérer en septembre de cette même année, mais les douleurs persistent. Pire, il doit de nouveau passer en salle d'opération pour libérer un nerf en novembre qui l'oblige à résider au centre médical La Durance de Tallard durant 2 mois. C'est à ce moment qu'il entend selon lui les mots de cimentoplastie discale pour la première fois. La question du consentement éclairé se pose alors et c'est bien sur ce point que la plaidoirie de maître Guillaume Pialou s'est appuyée. Ils ne se considèrent pas comme des cobayes mais pas loin quand même. En tout cas, ils ont perdu toute confiance auprès des médecins, clame l'avocat de 12 des 16 patients qui se sont constitués partie civile, dont Eliane Bernard, la mère du champion olympique de natation Alain Bernard, à l'origine de la médiatisation nationale de cette affaire.
Merci Cyrielle. Il est important de noter que toutes les personnes qui ont eu droit à cette opération ne partagent pas le constat porté par les parties civiles. Une patiente est en effet venue à la barre pour louer cette opération qui lui a permis de vivre à nouveau sans douleur. Absent au procès, une dizaine de personnes a même tenu à envoyer une lettre au tribunal pour clamer son soutien à un Gilles Neurot traumatisé par ces 4 dernières années qui ont chamboulé sa vie, explique-t-il.
les services techniques du département dévalisés à Briançon.
Information de nos confrères de BFM d'ici qui a révélé ce cambriolage qui a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi. En plus de 150 litres de carburant, une fourgonnette a été volée avant d'être retrouvée le lendemain en ville. Le département a bien entendu porté plainte auprès du commissariat de Briançon.
Une enveloppe de 50 000 euros pour l'Ukraine, apportée par le département des Hautes-Alpes.
Son président Jean-Marie Bernard la proposera le 5 avril prochain lors de l'Assemblée départementale. Elle abondera le Fonds d'action des collectivités territoriales ouvert par le ministère des Affaires étrangères. Une contribution similaire sera également délibérée aujourd'hui au sein du Conseil départemental des Alpes de Haute-Provence.
Et nous sommes 3,7 millions d'électeurs inscrits pour l'élection présidentielle 2022 en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
C'est le chiffre révélé ce jeudi par l'INSEE avec une quasi-parité dans les listes électorales, même si les femmes sont un peu plus nombreuses. Ce nombre d'inscrits progresse de 83 000 personnes entre mai 2021 et mars 2022. Sur cette période, 300 000 Français ont fait une démarche volontaire d'inscription sur une liste électorale, le plus souvent à la suite d'un déménagement. Parmi eux, 60% se sont inscrits en ligne. Notez finalement qu'au niveau local, on dénombre 113 532 électeurs haut-alpins et 128 074 électeurs bas-alpins. Pour connaître les inscriptions aux listes électorales de chacune de vos communes, rendez-vous sur alpin.com.
Et les stations face au manque de saisonniers.
Et c'est un effet boule de neige qui est ressenti par la CGT. Le syndicat réunit cette semaine tous les délégués de ces massifs alpins, dont les Alpes du Sud. Bilan, les aides du gouvernement aux stations pour faire face à l'année blanche la saison dernière ne sont pas revenues dans les poches des saisonniers, si bien qu'ils délaissent aujourd'hui le métier. Des effectifs qui en pâtissent, et aussi le travail, car il a fallu faire autant, mais avec moins de professionnels, donc plus d'accidents. Entre 15 à 20%, la part de salariés blessés chaque hiver, c'est plus que le BTP ou le transport routier, estime Antoine Fatiga. Le responsable saisonnier au sein de la CGT s'inquiète d'un métier qui ne plaît plus et d'une double peine avec la réforme de l'allocation chômage pour ceux qui l'exercent encore.
La montagne est l'activité économique qui a été la plus aidée. Il y a eu 7,2 milliards d'euros qui ont été versés pour un chiffre d'affaires de 8 milliards. Donc, vous voyez, c'est énorme. Et cet argent qui a été versé par l'État n'a pas servi à maintenir les saisonniers ni à les faire vivre et travailler au pays. L'année dernière, il y a à peine 25% des saisonniers qui ont été indemnisés. Le ministère dit 30, donc vous voyez, pour une fois, nous sommes quasiment raccord. Cette année, la difficulté qu'on a eue dans les entreprises liées à la saison, il y a eu des difficultés de recrutement. On a travaillé en sous-effectif, et d'ailleurs, je rencontre beaucoup d'employeurs qui me disent que c'était même une catastrophe. Et une des demandes fortes que nous avons fait au niveau de la branche remontée mécanique et saisonnière, c'est qu'on revienne aux effectifs qu'on avait dans les années 2019.
Combien à peu près d'effectifs il manquerait, en France, dans les stations françaises?
On estime qu'aujourd'hui, il doit manquer entre 10 et 15% d'effectifs.
10 et 15% d'effectifs.
Voilà. Donc, c'est pour ça que nous faisons la demande, y compris au niveau du gouvernement, de faire en sorte qu'elles reviennent sur les mesures qui ont été prises par rapport à l'assurance chômage. On ne peut pas aujourd'hui précariser encore plus les précaires. Ce n'est pas de leur faute s'il n'y a pas de neige l'été et s'il n'y a pas de neige pendant l'intersaison.
Antoine Fatiga était hier l'invité du 8.30 d'Alpe 1. Le podcast de cet entretien mené, comme vous avez pu l'entendre, par Cyril Cavamicha est à retrouver sur alpe1.com.
Et si la filière forêt-bois vous intéresse, bien, il y a un rendez-vous pour vous aujourd'hui.
C'est une journée des métiers qui est organisée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au lycée Alpes et Durance d'Embrun. Au programme de cette journée, une table ronde, mais aussi des conférences et un job meeting de 14h à 16h. Toute la journée, des démonstrations seront aussi proposées.
Alpe 1 Sport.
Et 5 rapaces sélectionnés dans la liste élargie pour le mondial.
Promu au championnat du monde élite en raison des exclusions de la Russie et de la Biélorussie, l'équipe de France se rendra à Helsinki en Finlande du 12 au 24 mai prochain. D'ici là, les Bleus joueront 8 matchs amicaux face à la Suisse, la Lettonie, la Slovaquie, l'Italie et la Norvège. Avant de définir sa liste définitive après les demi-finales de Ligue Magnus, le sélectionneur Richard Bozon a établi ce jeudi une large revue d'effectifs avec 52 joueurs, dont 5 rapaces de Gap. Le gardien Julian Juncka, les défenseurs Fabien Bourgeois et Axel Prissin, ainsi que les attaquants Fabien Colotti et Romain Gutiérrez espéreront faire partie du groupe France qui se réunira le 11 avril prochain à Megève pour le début du stage terminal avant le mondial. Notez finalement que les Briançonnais Florian Chakashvili et Cédric Didio Bolsamo, qui sont également actuellement dans le dernier quart de Ligue Magnus, ont été sélectionnés lors de cette liste élargie.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com, Facebook et Twitter.